Discussion dans la plus grande discrétion à Paris. Depuis deux jours, les délégations calédoniennes travaillent au ministère des Outre-mer pour préciser certains points de l'accord de Bougival. Christopher Gigès à Bercy la semaine dernière pour la préparation du budget, mais aussi à Bruxelles pour trouver des financements européens. Le membre du gouvernement en charge de l'économie était ce matin notre invité à 7h30. Le temps va continuer à se dégrader dès ce soir avec des pluies qui vont se renforcer, notamment tout le long de la côte Est. Les pays de l'Union européenne font front face à Donald Trump et ses velléités d'annexer le Groenland. Le bras de fer est lancé. La marche pour la vie à Paris, comme chaque année, elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes opposées à l'avortement, mais aussi au projet de loi sur la fin de vie qui fait son retour au Parlement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Rendez-vous à la fin de cette édition pour le magazine des sports du lundi. Bonjour Lionel.
Bonjour Jean-François.
Avec notamment, on va commencer par ça, une double actualité football.
Oui, alors on va commencer par la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la finale ce matin pour nous entre le Sénégal et le Maroc au stade de Rabat. Ce sont les Sénégalais qui se sont imposés 1-0 après prolongation. Mais on retiendra de ce match qu'il a été émaillé de très très nombreux incidents sur le terrain, dans les tribunes, mais aussi en tribune de presse, c'est vous dire s'il s'est passé des choses pour ce match et la victoire du Sénégal 1-0.
Et c'est plus calme en Ligue 1. Hein.
C'est beaucoup plus calme en Ligue 1 avec ce matin Lyon qui s'est rapproché du podium après sa victoire 2-1 sur Brest. En revanche, ça continue d'aller mal pour le FC Nantes qui s'est incliné à domicile ce matin. 2-1 à domicile face au Paris FC au classement général. C'est toujours Lens qui devance le Paris Saint-Germain.
Pas de top 14 de rugby. En revanche, c'était un week-end européen.
Oui, avec du bon et du moins bon hein, pour les clubs français engagés dans la compétition. Alors le bon, c'est la très belle victoire de Toulouse, 77-7 face à Sale, ou encore la victoire de Castres sur le Munster, 31-29. Le moins bon, c'est la défaite de Pau qui s'est inclinée devant les Blue Bulls, 26-24, ou encore la défaite de Bayonne à domicile face au Leinster, score final 22-13.
Voilà quelques points que nous évoquerons donc dans le magazine des sports du lundi. Nous reviendrons en Calédonie sur les prochains événements préparés par Pro Event. L'organisme mettra en place cette année le premier Trail Pro Tour, un challenge annuel avec 6 étapes dont nous parlerons avec Julie Prunet. C'est la co-gérante de Pro Events, elle sera notre invitée dans le MAC des Sports. Avant d'en venir aux discussions à Paris, les faits divers et la ville de Dumbéa condamnent vivement l'incendie volontaire qui a détérioré deux salles de classe de l'école élémentaire Jacques Minguet dans le quartier d'Auteuil. Les faits se sont survenus ce matin. La police municipale a rapidement interpellé les auteurs présumés des faits qui sont actuellement entendus par la gendarmerie. La ville annonce qu'elle va tout mettre en œuvre pour remettre en état les locaux incendiés et qu'elle attend par ailleurs une réponse ferme de la justice. La municipalité annonce également qu'elle apporte tout son soutien aux enfants, aux familles et à l'ensemble des équipes éducatives touchées par cette agression irresponsable et inacceptable. Fin de citation. Les délégations calédoniennes continuent donc de discuter à Paris. Après l'ouverture des travaux à l'Élysée, vendredi soir, elles se réunissent chaque jour au ministère des Outre-mer, rue Audino. Il s'agit de travailler par thème sur certains points de l'accord de Bougival que les délégations souhaitent voir préciser. Mais l'accord et ses équilibres restent la base des discussions qui portent sur la question des conditions éventuelles du transfert des compétences ou sur la question de l'autodétermination. Il doit aussi y avoir une séquence consacrée aux questions économiques. Les discussions sont prévues pour durer jusqu'à lundi midi, heure de Paris, mais pourraient se prolonger pour permettre d'aller jusqu'au bout des points à étudier. C'est des discussions qui se déroulent également en toute confidentialité, presque à huis clos. Et c'est une bonne chose, nous a dit Christopher Gigès, membre des loyalistes.
Et c'est mieux quand c'est discret, parce que des discussions qui s'étalent sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour que ça ne se passe pas. Par contre, il doit y avoir une transparence à l'issue des discussions pour savoir ce qui s'est réellement dit. Je crois qu'il est surtout temps d'avancer, c'est-à-dire que depuis le dernier référendum, je le rappelle, le 12 décembre 2021, il est temps que l'État prenne ses responsabilités et tranche avec ceux qui veulent avancer. On a une délégation nous, qui est partie, on a bien préparé cette mission. Les fondamentaux, ils ont été posés au moment de l'accord de Bougival. Je crois que chacun a fait des pas importants et maintenant il est temps de trancher et d'arrêter de donner trop d'importance à ceux qui veulent faire reculer la Calédonie.
Christopher Gigès qui rentre de Paris pour un déplacement dans le cadre de la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie. Nous y reviendrons dans un instant.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Les délégations politiques à Paris vont-elles arriver à se mettre d'accord sur un document permettant d'amender l'accord de Bougival ? Si vous pensez qu'elles vont se mettre d'accord, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Notez qu'une cinquantaine de personnalités du monde politique et économique signent une tribune en soutien à Sonia Backès. Elles réagissent à la procédure engagée par Christian Théin en diffamation après la présidente de la province sud, qui a qualifié celui qui venait d'être alors élu président du FLNKS de terroriste, c'était sur RTL. Les signataires écrivent que cela relève d'un malaise démocratique profond, né d'un renversement des responsabilités. Je cite, « Une responsable politique est poursuivie pour des mots, tandis que des menaces suivies d'effets dévastateurs n'ont toujours suscité aucune réaction judiciaire à la hauteur de leurs conséquences. » Fin de citation. Christopher Gigès était donc notre invité ce matin pour revenir sur les quelques jours qu'il vient de passer à Paris. Le membre du gouvernement en charge de l'économie et du budget a notamment rencontré le ministre de l'économie et des finances à Bercy. Il s'agissait notamment de faire le point sur l'aide de l'État dans le cadre de la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie pour faire passer quelques messages.
J'entends trop souvent l'État dire la Nouvelle-Calédonie doit se réformer, la Nouvelle-Calédonie doit faire des efforts.
Et on sait qu'ils ont conditionné leur aide financière à ces réformes.
Oui, mais ils exigent de la Nouvelle-Calédonie des choses qui ne sont pas en capacité de s'appliquer à soi-même. Quand on voit le spectacle à l'Assemblée nationale, je pense que l'État français n'a pas forcément beaucoup de leçons à donner à la Nouvelle-Calédonie en termes de réformes. Donc c'était important de préciser ce qu'on a déjà fait, une baisse de 20% de nos différents budgets, la mise en place d'un jour de carence, la minoration des retraites de la fonction publique, le gel des retraites du secteur privé. On ne fait pas ça pour se faire plaisir en ce moment. On fait ça justement par devoir de responsabilité pour donner un budget à la Nouvelle-Calédonie, donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il était important de montrer à l'État qu'on a une trajectoire de rétablissement des comptes publics. Et ce n'est pas parce qu'ils vont nous expliquer qu'il faut faire des réformes qu'on va en faire plus. Si la seule réforme qui est attendue par l'État, c'était l'augmentation de la pression fiscale, je préférais le dire directement au ministre de l'Économie qu'il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale.
Et il s'agissait aussi de faire le point sur le prêt de l'AFT garanti par l'État qu'il a accordé à la Nouvelle-Calédonie.
L'idée de mettre un peu plus la tête sous l'eau de la Nouvelle-Calédonie avec un remboursement très rapide des prêts, ce n'était pas le meilleur plan de relance pour notre territoire.
Est-ce que vous avez été entendu ? Est-ce que vous avez eu des éléments de réponse ?
Oui, il y a quand même une prise en considération de la part de l'État et surtout le fait de montrer factuellement qu'on met en place des mesures en Nouvelle-Calédonie que l'État est en incapacité de prendre soi-même, ça rappelle à une certaine réalité.
Christopher Gigès s'est également rendu à Bruxelles, car dans cette période compliquée économiquement pour la Nouvelle-Calédonie, l'Europe peut être une source de financements importants.
L'État a de moins en moins d'argent et donc il est important de se professionnaliser pour trouver d'autres sources de financement. Et on s'est insuffisamment tourné vers l'Europe ces dernières années sur plusieurs choses, c'est-à-dire un, les programmes européens de financement qui nécessitent qu'on se structure mieux au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour aller les chercher, mais surtout que la Nouvelle-Calédonie puisse avoir une stratégie de valorisation de l'Europe dans le Pacifique et qu'on puisse porter l'Europe dans le Pacifique, notamment par l'accueil d'entreprises qui pourraient rayonner dans la zone par la Nouvelle-Calédonie. Et surtout, ce qu'on a évoqué avec la directrice de la stratégie européenne et le commissaire européen en charge de la compétitivité et de la stratégie industrielle, c'est également les grands éléments stratégiques, notamment le nickel. On parle depuis longtemps d'une filière européenne du nickel. Il est temps de la matérialiser pour le nickel calédonien. Ce qu'on évoquait avec le commissaire européen en charge du sujet, c'est-à-dire un niveau de prix garanti pour les matières premières, ce qui permet de garantir une rentabilité aux opérateurs, mais également des financements, notamment sur le secteur énergétique, pour améliorer la compétitivité du secteur et notamment maintenir les emplois.
Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie et des finances, qui était donc notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet. À propos de financement public, notez que la commune de Bouloux-Paris mobilise les crédits de l'État dans le cadre de l'aide républicaine. Dans un communiqué, elle indique que la dotation exceptionnelle de 21 millions de francs va lui permettre de garantir la continuité des services publics locaux et venir en aide aux populations. Elle va notamment verser des soutiens financiers pour les foyers les plus modestes afin de financer un dispositif de soutien scolaire, mais aussi les cantines. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Dans un instant, on va s'intéresser de près, évidemment, à la météo et au temps prévu dans les jours à venir.
Toute l'info en trois lettres, RRB. My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le ciel fait grise mine en ce début de semaine et ce n'est pas terminé. Les pluies et les orages s'invitent sur presque tout le territoire. Aujourd'hui, quelques éclaircies résistent sur le sud-ouest avec de rares averses, mais ailleurs, Léana Colombo, le ciel est chargé avec des pluies parfois orageuses, surtout au nord, à l'est et au Loyauté.
Et oui, en cause, le minimum dépressionnaire qui était attendu le week-end dernier. Il est désormais positionné à l'ouest du territoire. La météo des prochains jours va donc dépendre de son évolution. Mais dès ce soir, de fortes pluies sont attendues. 11 communes de la côte est, de Ouégoua à Yaté, ont été placées en vigilance orange, fortes pluies et orages. Le reste de la Grande Terre, les Loyautés, l'île des Pins et Bélep restent pour l'instant en vigilance jaune. Ces averses seront accompagnées de vents avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h localement, explique Gilles Deveau, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Ce petit phénomène va aussi occasionner un renforcement du vent notable la pointe nord, tout d'abord en cours de nuit prochaine, un vent de nord qui va atteindre des valeurs de l'ordre de 30 nœuds, puis jusqu'à 35 nœuds. On a d'ailleurs déjà émis une vigilance jaune sur ces régions, et même un bulletin spécial destiné aux plaisanciers. Alors ce vent va ensuite continuer de se renforcer puisque le petit phénomène va évoluer dans l'ouest du pays, et le vent va s'orienter au secteur nord-ouest, et on aura des valeurs qui vont osciller entre 30 et 35 nœuds dans la journée de mardi, avec des rafales voisines de 45 nœuds, voire localement 50 nœuds, ce qui équivaut à peu près à 95 km/h.
Côté température, elle reste élevée malgré la dégradation, entre 27 et 30 degrés encore aujourd'hui selon les secteurs.
La baisse va surtout être liée au fait qu'on va avoir une couverture nuageuse plus importante et des précipitations, mais on reste toujours dans un flux de nord chaud et humide, et ce jusqu'à jeudi. Donc en fait, c'est vraiment la couverture nuageuse qui va faire que les températures baissent, mais on va rester dans des températures de l'ordre de 28 à 30 degrés tout de même.
Cette nuit, l'instabilité va se généraliser. Des cumuls de pluies importants sont attendus, notamment sur l'est et le nord, avec un risque de débordement de cours d'eau. Une amélioration progressive est toutefois espérée à partir de vendredi, avec un temps plus stable, encore quelques averses, mais aussi de belles éclaircies.
On parle beaucoup de la pluie, un peu du vent, mais il ne faut pas non plus oublier les fortes chaleurs. Depuis plusieurs jours, la Calédonie enchaîne en effet les températures élevées avec un ressenti parfois étouffant.
Un coup de chaud qui s'explique par une masse d'air chaude et humide installée sur le territoire, favorisé par un flux peu ventilé. Résultat, la chaleur s'accumule et les nuits peinent à rafraîchir, rendant l'épisode difficile à supporter pour beaucoup. Dans certaines zones, les maximales approchent, voire dépassent les 30 degrés avec un taux d'humidité élevé. Selon les observations publiées par Météo France NC à Païta et à Bouloupari, le mercure a atteint 38 degrés en fin de semaine dernière. Au Mont d'Or, il a dépassé les 36 degrés. Thomas Binoun est climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
La valeur la plus élevée qu'on a enregistrée, d'abord, c'est à Népouy, avec 36,9 degrés. Et c'est d'ailleurs un record annuel sur cette station. Donc là, on est quasiment à 7 degrés au-dessus de la valeur habituelle de janvier. Après, par exemple, sur Nouméa, on est à 34,6 degrés. Donc pour une normale à 29,5, donc on est 5 degrés au-dessus des normales. À Tontouta, on est à 34,9 degrés. À la fois, on a 35,1 degré. À Koumac, 35 degrés. Donc sur l'ensemble des communes de la côte ouest, hein, on est entre plus 4 et plus 5 degrés au-dessus des valeurs de saison.
Sur la côte Est et dans les Loyautés, il a aussi fait plus chaud que d'habitude, mais avec seulement plus 1 degré par rapport aux valeurs de saison. Une évolution est attendue dans les prochains jours avec l'arrivée de la dégradation météo. Les pluies et le vent devraient permettre une baisse progressive des températures avec un retour vers des valeurs plus proches des normales de saison.
La météo qui provoque aussi des dégâts en Australie, notamment dans l'état du New South Wales, est touchée par une tempête hier. Plusieurs quartiers de Sydney et de ses environs ont été inondés. On fait le point avec Jean-Pierre Zajac.
De l'ordre de 150 à 180 mm en quelques heures, ces chutes de pluie ont inondé plusieurs quartiers de Sydney, y rendant impossible toute circulation routière et ferroviaire. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs terrains de camping menacés par la montée des eaux, tandis que les services d'urgence ont répondu à près de 3000 appels à l'aide. En plus des arbres déracinés par le vent qui accompagnait ce que l'on peut appeler une tempête inattendue, des glissements de terrain se sont produits qui ont quasiment enseveli plusieurs maisons. Ce matin encore, plusieurs milliers d'usagers étaient toujours sans électricité et de nombreuses inondations étaient encore signalées tant dans Sydney que dans sa grande région. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis toujours à propos de l'actualité en Australie, un adolescent de 13 ans est toujours dans un état critique à l'hôpital après avoir été mordu aux jambes par ce qui semble être un requin taureau. Le drame s'est produit hier après-midi non loin de Shark Beach, l'une des plages de Vaucluse, une commune dans la banlieue de Sydney. La pose d'un garrot sur chacune des jambes du garçon a certainement permis à l'adolescent d'être encore en vie aujourd'hui, mais il reste cependant en soins intensifs à l'hôpital où il a été opéré la nuit dernière pour nous. 11h47, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Incendie. Inondation, cyclone, les risques naturels sont nombreux et bien réels. Êtes-vous sûr d'être bien assuré? En cas de doute, prenez contact dès maintenant avec votre assureur. Parce qu'être assuré, c'est être protégé. Ceci est un message du COSODA, Comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Les pays européens entendent faire front commun contre Donald Trump qui veut annexer le Groenland. Le président américain a annoncé une nouvelle surtaxe des droits de douane pour les pays de 8 pays européens opposés à ces velléités d'annexion. Une réunion d'urgence se tiendra la nuit prochaine pour nous à Bruxelles, car il s'agit d'organiser la riposte et les 8 pays mis en cause ont d'ailleurs publié un communiqué commun. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
C'est un communiqué ratifié par le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni qui accusent Donald Trump de conduire les relations transatlantiques dans, je cite, un dangereux engrenage. Depuis 24 heures, les échanges se multiplient entre ces pays. Emmanuel Macron veut se montrer au premier plan de la défense européenne. Une réunion extraordinaire des ambassadeurs s'est ouverte en fin d'après-midi à Bruxelles pour affiner la riposte, accorder les violons sur la conduite à tenir face aux locataires de la Maison-Blanche. Et à ce stade, aucune prise de position commune n'a été actée. Les États européens sont partagés sur les mesures à mettre en place. Si Emmanuel Macron réclame l'activation d'un instrument anti-coercition de l'Union européenne, une arme de dissuasion pour répondre au président américain au risque de déclencher une véritable guerre commerciale, la Norvège, pays visé mais pas membre de l'UE, n'envisage pas de contre-mesures pour le moment. Son premier ministre appelle au contraire à, je cite, éviter une guerre commerciale qui s'emballerait dans une spirale infernale. De même, Giorgia Meloni évoque une erreur et affirme même s'être déjà entretenu avec Donald Trump aujourd'hui, tandis que Friedrich Merz, le chancelier allemand, martèle sans précision que l'Allemagne se tient aux côtés du Danemark et de la population du Groenland.
L'Europe qui doit faire face aussi à la colère d'une partie des agriculteurs qui reste opposée à l'accord de libre-échange signé avec les pays d'Amérique latine et du Sud. Après Bruxelles, 4000 tracteurs doivent se réunir à Strasbourg la nuit prochaine pour nous, pour marquer leur opposition à cet accord Mercosur. Des milliers de manifestants, il y en avait aussi la nuit dernière dans les rue de Paris à l'occasion de la Marche pour la Vie. Organisée une fois par an, elle rassemble les opposants à l'avortement. Mais cette année, il s'agissait aussi de se mobiliser contre la loi sur la fin de vie, alors que les débats doivent reprendre mardi au Sénat. Écoutez ce manifestant.
La vie, de manière générale, tout ça, en fait, c'est un enjeu qui est, qui est globale. On voudrait que la balance soit nettement remise dans l'axe de ce qui nous va tous, c'est-à-dire les soins palliatifs, et non pas cette espèce de propension à faire abréger la vie alors qu'il y a d'autres solutions qui sont tout à fait possibles. C'est pour ça qu'on est là.
La loi sur la fin de vie sera donc de nouveau en débat cette semaine au Sénat. Une série d'accidents dramatiques en métropole. D'abord, le plancher d'un appartement du 11e arrondissement de Paris qui s'est effondré lors d'une fête à laquelle participaient une cinquantaine de personnes. 15 d'entre elles ont été blessées, dont une grièvement. Et puis à Bordeaux, un jeune conducteur a provoqué un grave accident qui a fait un mort et un blessé grave. Il conduisait sous protoxyde d'azote et il a violemment percuté deux véhicules qui étaient à l'arrêt à un feu rouge. Bordeaux, comme partout en France, où les forces de sécurité reçoivent l'appui des réservistes. Ils donnent plusieurs jours par an contre rémunération et en fonction des besoins pour renforcer les forces de sécurité ou les forces armées. À Bordeaux donc, certains d'entre eux font partie d'une patrouille quotidienne appelée Hermès pour équipe de réservistes mixtes en sécurisation. Elle se déploie dans les transports en commun de la ville. Le reportage de Stéphane Place pour Europe 1.
Dans cette rame du tramway bordelais, arme à la ceinture, rien ne distingue ces policiers réservistes en uniforme de leurs collègues qui sécurisent les transports en commun toute l'année, tous les jours. Ce n'est pas le cas de cette patrouille Hermès. 4 agents, 2 anciens policiers retraités qui ont rejoint la réserve et 2 autres réservistes qui ont une vie professionnelle par ailleurs qui n'a rien à voir avec ces missions ponctuelles de police. C'est le cas de Michael, 40 ans.
Je suis ingénieur en bâtiment.
Et là aujourd'hui, vous êtes policier.
Je fais à peu près 1 à 2 jours par mois. Donc là, c'est juste une patrouille. Effectivement, il n'y a que des réservistes, mais il y a 2 quand même anciens de la police nationale qui ont de l'expérience. C'est bien qu'il y ait 2 personnes d'anciens d'actifs qui sont là parce qu'effectivement, nous, on n'a pas les mêmes réflexes que des gens d'actifs et qui ont fait ce métier pendant longtemps.
Lutte contre les vols dans les bus et les tramways, contre les incivilités aussi durant 7 heures, la durée d'une vacation. Cette patrouille de policiers réservistes constitue un renfort important, insiste le commissaire Louis Liversin.
On gagne quand même une patrouille supplémentaire sur le réseau, ce qui n'est pas négligeable. On souhaite vivement pouvoir développer ce dispositif parce que les enjeux de sécurité dans les transports en commun sont très importants.
En Gironde, la police nationale peut compter sur près de 400 réservistes. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.